Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, le débat donc des grandes voix avec ce soir Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
La France se dirige-t-elle vers des couvre-feux localisés? Ce serait l'une des pistes en discussion au sommet de l'État face à la résurgence des contaminations. L'inquiétude grandit au sein de l'exécutif, ça on l'avait compris. Alors toutes les options sont sur la table, dont celle de couvre-feu dans les zones actuellement en alerte maximum. On pense évidemment à Paris et sa petite couronne. Écoutez d'abord Martin Blachier, épidémiologiste.
Je ne crois pas une seconde au reconfinement et très probablement que dans les jours qui vont venir, la situation va s'améliorer. Et la critique qu'on va leur faire, c'est plutôt pourquoi vous nous avez fait paniquer, pourquoi vous avez fermé les bars, pourquoi vous avez fermé les restaurants.
On est peut-être à un tournant, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, dans cette gestion de la crise du Covid. J'allais dire un nouveau tournant, un de plus.
Oui, on accumule, on va de virage, hein, si vous voulez, on va de virage en virage. Hein. Et puis je trouve quand même, avant même d'essayer de voir ce que peut dire le président, je trouve quand même que beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de décideurs, beaucoup de parleurs ont parlé au nom du gouvernement. On a entendu le Premier ministre, on a entendu le ministre de la Santé, on a entendu le porte-parole du gouvernement, tout ça en 3 jours. Et maintenant le président, demain, bon, alors, vous me direz, dans la Ve République, c'est le seul qui compte vraiment.
C'est le président
de la République. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du président? Un, je n'en sais rien. Mais il y a des choses dont on peut dire qu'il ne les fera pas. Le reconfinement généralisé du pays, il ne le fera pas. On est déjà en difficulté énorme sur le plan économique. Il n'y aura pas de reconfinement généralisé qui tuerait pour de bon l'économie française. Alors après, il y a avant même de couvre-feu, il peut y avoir les restrictions de déplacement. On n'est pas loin des vacances de Toussaint. Il y a à peu près un quart des Français qui songent à prendre des petites vacances en famille.
Ça paraît compliqué, vu les déclarations de Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre du Tourisme, hier dans ce studio.
Ça a été, je crois, démenti hier soir.
Oui.
Donc il ne reste plus, effectivement, et ça devient l'arme fatale ou l'arme magique, que le couvre-feu, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire à 22h ou à 23h, on ferme. Hein, on ferme tout.
Ouais.
Alors simplement, ça correspond à quelque chose qui est la guerre. Pour les vieux, ça leur fera penser à la guerre.
À ceci près que ça a été mis en place en Guyane, ça a été mis en place en Allemagne, et on s'en souvient peu, mais pendant le confinement, ça a été mis en place dans un certain nombre de municipalités où on avait interdiction de circuler dans les rues entre 20h et 5h du matin. Alors c'est vrai, Charles Villeneuve, au-delà de l'aspect politique, il y a beaucoup de... Si jamais c'est le choix du président de la République, et si jamais il annonce ce couvre-feu demain, il y a beaucoup de détails administratifs et de mise en pratique qui restent à définir. Est-ce que c'est 20h? Est-ce que c'est 21h? Est-ce que c'est 23h? Est-ce que ça concerne uniquement les établissements publics ou est-ce que ça concerne aussi les citoyens? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se déplacer dans les rues à partir d'une heure donnée. Il y a beaucoup de questions qui se posent finalement.
Moi, je crois que le président de la République et son régisseur, le Premier ministre...
Vous l'appelez le régisseur, c'est pas mal.
Oui, parce que je trouve finalement qu'il ne fait qu'appliquer ce que décide le président de la République, comme l'a défini Gérard. C'est celui qui compte avant tout et c'est celui qui prend les décisions. Et notamment Emmanuel Macron, parce que la verticalité, là, n'a jamais été plus, si vous voulez, en prise directe sur la gestion de l'État qu'aujourd'hui.
Alors vous savez ce qui se dit? Il se dit que comme à l'époque d'Édouard Philippe, il y a une dissension en ce moment dans les négociations entre la ligne élyséenne, plus souple, plus sur la ligne de responsabilité des individus, et la ligne de Matignon. Qui est pour un nouveau tour de vis.
En tout cas, je crois que tous les deux se rendent compte qu'ils doivent se débarrasser de l'étrange parfum de flottement qui règne, si vous voulez, qui enveloppe l'exécutif aujourd'hui. Et il y a quelque chose auquel on ne pense pas assez par rapport, aux décisions du président de la République, quelles soient ces décisions, couvre-feu ou pas couvre-feu. Je pense qu'il y aura sans doute un couvre-feu sur les zones qui sont le plus à risque, comme Paris et l'Île-de-France, mais aussi Lille, aussi, qui peut être concernée par ces couvre-feux. Le problème du
Marseille,
couvre-feu,
évidemment.
Moi je trouve que c'est, je parlais de parfum tout à l'heure, que c'est trop... si vous voulez, une décision de guerre, quasiment, puisque c'est privé de sortie. Donc, à 22h ou 23h, on verra bien. Mais il y a une crainte de l'exécutif dont on ne tient pas compte, c'est le risque pénal. Rappelez-vous la fameuse phrase du président de la République, rapportée publiquement par Philippe de Villiers, qui se plaignait au chef de l'État de la réticence du Premier ministre Édouard Philippe à l'époque de ne pas ouvrir toutes les portes au puits du fou, aux spectateurs.
Oui, oui.
Bon, Et le président de la République avait dit à Philippe de Villiers, le Premier ministre gère son risque pénal. Or, les décisions du gouvernement ne peuvent qu'en tenir compte, vous savez que c'est constitutionnel, depuis 2006. L'épée de Damoclès du risque judiciaire pèse sur toutes les décisions publiques et surtout, et vous savez qu'il y a des plaintes qui ont été portées contre...
Vous voulez dire que c'est la raison pour laquelle on en fait plutôt plus que pas assez?
Je pense que...
Enfin, que le gouvernement en fera plus que pas assez.
Je pense que c'est un des facteurs qui pèse sur la décision. Je ne dis pas que c'est le seul, parce que justement, il y a un certain nombre de médecins, pas celui que nous venons d'entendre, notamment, Martin Blachier, qui lui ne fait pas partie du tout des alarmistes, mais qui considère que les indicateurs montrent que le pic comparable à celui de mars-avril est nettement en dessous, qu'on est très loin, si vous voulez,
de la... Ça, c'est ce que montrent les chiffres, factuellement, là, tout le monde est...
Oui, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont, à l'heure actuelle, en réanimation, et qui sont en fin de réanimation.
Oui. Bon. Et il y a 800 personnes en réanimation contre 1700, souvenez-vous, au mois d'avril. Donc on est très loin du pic.
Et donc, si vous voulez, le directeur général de la Santé, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, eux peuvent faire l'objet de plaintes au pénal. Et c'est la raison pour laquelle on essaie, si vous voulez, d'éviter cette floraison de plaintes.
Alors, 18h40, on se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix et on continue d'en parler. Gérard Carrérou réagira. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, c'est toujours le débat des grandes voix ce soir avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve et on parle de cette possibilité d'annonce qui est sur la table du président de la République, des couvre-feux nocturnes envisagés notamment pour Paris et sa petite couronne. Alors, une précision sur les chiffres de réanimation. Le chiffre, je l'ai sous les yeux, il est en hausse, mais il n'y a pas d'explosion. 1483 personnes aujourd'hui en réanimation contre plus de 7000 au mois d'avril. Gérard Carrérou.
Oui, et pourtant, je vais prendre la balle au bond, si j'ose dire, parce que effectivement, c'est ce chiffre des réanimations qui est à l'origine, je crois, de la décision qui sera prise, en principe, demain du président de la République, de prendre une mesure spectaculaire, parce que on a beau dire, le couvre-feu, c'est spectaculaire. Si on ne peut plus sortir à 10h du soir en France, enfin pas en France, mais dans les régions concernées, il y en aura peut-être deux ou trois, dont la région parisienne, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement.
Pendant le confinement, quand même.
Historiquement,
c'est le cas pour Berlin, Berlin, Francfort et Hambourg.
Mais Berlin, c'est Berlin, c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, etc. Mais donc, en fait, l'obsession du président, c'est qu'on n'arrive pas à un moment où l'opinion lui reproche d'avoir amené cette situation où il y a tellement de gens qui demandent, qui souhaitent ou qui ne souhaitent pas d'ailleurs, mais à qui on doit donner un lit de réanimation et qui ne peuvent pas y accéder.
42% d'où de lit de réanimation qui peut en ce moment
d'où la nécessité, dans ce cas-là, pour les médecins, de faire un truc épouvantable, c'est-à-dire de faire un tri entre telle et telle personne. Donc, et ça, le président de la République, lui, il fait de la politique. Il gère, comme dit Charles, il gère peut-être son risque pénal, mais avant tout, il pense aussi à l'élection présidentielle. Il sait que ça lui risquerait de lui être
fatal. Au-delà de la politique, pardon, il gère aussi l'engorgement dans les services de réanimation.
Pour l'instant, il n'y a pas d'engorgement. Mais il craint, et autour de lui, un certain nombre de médecins et de gens effectivement compétents craignent qu'il y ait à un moment donné l'engorgement, donc le tri. Donc il veut tout faire. Et la mesure du couvre-feu, à mon avis, elle a une seule motivation forte, c'est de dire s'il n'y a plus de sortie à partir de 10h du soir, ça veut dire que les jeunes ne se verront plus. Ils iront même plus dans les appartements où ils se réunissent parce qu'ils auront peur de se faire choper à la sortie, de chez leurs copains, etc. Il n'y aura plus un seul dîner parisien.
C'est exactement ce qui avait été mis en place en Guyane pour limiter les rassemblements festifs dans l'espace public et privé. Car c'est aujourd'hui considéré par l'exécutif, encore une fois, comme le point noir de la stratégie mise en place. Comment limiter les rassemblements privés? Car légalement, évidemment...
Parce que les bars et les restaurants, ça n'a pas suffi, on l'a bien vu.
Et puis légalement, on ne peut pas limiter les rassemblements privés.
Non, parce que même si vous voulez, dans les trois villes allemandes où ça a été décidé...
Il y a trois jours seulement.
Samedi dernier, c'est vrai que Berlin est la capitale européenne des fêtards, si vous voulez, quasiment dans toute l'Europe. Ce n'est pas le cas obligatoirement de Francfort et de Hambourg. Ce sont des villes que je connais assez bien. Mais c'est vrai qu'au risque pénal, j'ajouterais, Et c'est ce que tu disais, toi, Gérard, à peu près, c'est la saturation des urgences, des services de réanimation et la fatigue des soignants. Il ne faut pas l'oublier parce qu'elle est importante. Bon, mais je trouve que la vertu, si vous voulez, des couvre-feux, puisqu'on sait que les clusters, c'est surtout les fêtes privées, c'est les mariages et c'est les rassemblements d'un certain nombre de gens en lieu clos. C'est là, si vous voulez, que la dynamique du virus reprend son souffle, en quelque sorte. Mais la vertu d'un couvre-feu, c'est surtout une dimension psychologique.
Oui.
Hein. Et ben moi, je trouve que c'est trop une formule de guerre.
Oui, oui.
Et je trouve qu'il faudrait plus demain que le chef de l'État lance un appel à la responsabilité individuelle et à l'intelligence des Français.
C'est
et elle a
ce
été
fera.
Démontrée, cette intelligence des Français, je le disais hier au cours de l'émission, je le rappelle, loin devant l'Allemagne, la France est le deuxième pays au monde qui a le plus respecté scrupuleusement le
confinement.
Le confinement.
Mais c'est peut-être ce qu'il fera demain. Il lancera peut-être un appel sans annonce forte
à
la responsabilité des Français.
On ne peut pas l'exclure.
Il y a quand même un reproche qu'on peut faire avant même. Je lui fais un reproche avant même, vous me direz qu'il ait pris sa décision. Mais il me semble qu'on n'arrive pas en France, peut-être parce qu'à force de vivre dans un État jacobin, centralisateur, etc., on n'arrive pas à faire dans la deuxième phase de la maladie ce qu'on n'a pas fait dans la première, c'est-à-dire d'impliquer davantage tout ce qui tourne autour du privé. Les cliniques privées, les médecins du privé. Je te l'enlève de la bouche parce que c'est tellement vrai.
Ouais.
C'est tellement vrai. On ne parle qu'en termes de grands établissements de type parisien, hein, la Pitié-Salpêtrière, un certain nombre de grands hôpitaux, et on a la trouille absolue qu'il n'y ait plus de lits de réanimation dans ces hôpitaux.
Parce que rien, c'est surtout dans les CHU et dans les grands
hôpitaux.
Oui,
mais on aurait pu, on a eu 6 mois de battement, on aurait pu commencer à prévoir.
C'est Julien,
ça n'a pas été géré.
Qu'il faudrait répéter, parce que moi je vais vous citer un exemple entre Toulon. Hier, si vous voulez, dans le Var, eh bien, toutes les cliniques privées, et il y en a quand même pas mal, notamment, pas seulement qui traitent évidemment des virus, mais aussi des virus, eh bien, tous les lits étaient libres.
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 Oui. Bien. 18h47, on continuera d'en parler, mais on va également évoquer la politique du chiffre de la sécurité incarnée aujourd'hui par Gérald Darmanin. À tout de suite.